vous ou quelqu'un que vous connaissez étudier une nouvelle langue? Le concours national des langues SBS 2018 est ouvert jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sbs.com.au/nlc18.
Les grands titres de ce dimanche, les commémorations marquant la fin de la Première Guerre mondiale autour du monde. Les enquêtes se poursuivent sur l'attaque au couteau à Bourke Street à Melbourne, une attaque revendiquée par le groupe djihadiste Daesh. Michael Daly est le nouveau chef des travaillistes en Nouvelle-Galles du Sud. Les événements marquant le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale se déroulent un peu partout dans le monde entier. Ici en Australie, le Premier ministre Scott Morrison et le chef de l'opposition Bill Shorten étaient devant le monument de guerre à Canberra qui avait été construit pour rendre hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Une veillée de nuit aura également lieu sur la tombe du soldat inconnu qui marque les 25 ans de sa mise au repos à Canberra. Et dans le Victoria, le gouvernement travailliste et l'opposition de la coalition libérale vont mettre fin à leur campagne électorale par respect. Le gouverneur général Sir Peter Cosgrove est en France pour représenter l'Australie à un service à l'Arc de Triomphe. Et on revient à Canberra. À 11h ce matin, une minute de silence fut observée. Le Premier ministre Scott Morrison a pris la parole tout de suite après.
War is always a failure of our humanity. Yet, we know there are times when even the most peaceful of men and women are called upon to defend the beliefs they live by. And there have been too many such times over the course of the past century. This is not to say that our reflections on those conflicts must be unquestioning, but the sacrifice demands that we reflect, ponder, and learn from every conflict. Because that's what free societies like Australia do.
Le Premier ministre australien Scott Morrison en France, Emmanuel Macron et Angela Merkel étaient dans la clairière de Rotonde hier samedi, là où fut signé l'armistice le 11 novembre 1918. Les deux dirigeants ont déposé une gerbe avant de signer le livre d'or dans la réplique du wagon de l'armistice. Reportage Anastasia Becchio pour RFI.
Madame la chancelière d'Allemagne vient d'arriver. Elle est accueillie par Monsieur le Président de la République.
Vêtue de noir, Angela Merkel et Emmanuel Macron passent en revue les troupes de la brigade franco-allemande. Lentement, l'air recueilli, ils remontent l'allée qui mène à la clairière de Rotonde et à la dalle sacrée, le lieu même où a été signé l'armistice. Les deux dirigeants y dévoilent une plaque dont le message est lu en allemand et en français par des lycéens devant le millier d'invités.
Autrefois marquée par l'antagonisme franco-allemand, cette dalle sacrée devient aujourd'hui symbole de la réconciliation entre les peuples français et allemands.
Direction ensuite le wagon du maréchal Foch pour y signer côte à côte le livre d'or. Ce moment d'émotion passé, l'ambiance se détend lorsque les deux dirigeants reviennent sur la clairière et échangent avec le public. Emmanuel Macron répond à une lycéenne qui lui demande quel est le sens de cette cérémonie.
Notre Europe, depuis 73 ans, est en paix. Et il n'y a pas de précédent. Et elle est en paix parce que nous l'avons voulu. Et au premier chef, parce que l'Allemagne et la France l'ont voulu. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, projet après projet, ont décidé que leur futur, leur sécurité se ferait ensemble.
Et c'est ensemble qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel poursuivront demain ces commémorations en ouvrant côte à côte le Forum sur la paix à Paris.
Anastasia Becchio pour RFI. Et en Allemagne, voyons maintenant comment les Allemands vont marquer le 11 novembre avec ce reportage de Pascal Thibault pour RFI.
Le 11 novembre, pour l'Allemand moyen, marque d'abord le début de la période du carnaval. L'armistice de 1918 et la fin de la Première Guerre mondiale ne jouent pas un rôle important dans la mémoire historique. D'abord, il s'agit d'une défaite, et d'une défaite qui, il y a 100 ans déjà, suscitait des polémiques. Les forces monarchistes, les militaires et les plus conservateurs rejetaient cette interprétation. Ils ont développé la légende du coup de poignard dans le dos, venant de l'arrière et des civils contre les militaires sur le front. Ensuite, les conditions du traité de Versailles, plus tard, très dures pour l'Allemagne, ont renforcé le traumatisme et les querelles autour de cette date qui n'a pas de ce fait été mise en avant. La Première Guerre mondiale et ses conséquences ont longtemps été perçues comme le début d'un enchaînement néfaste, conduisant, à la fin de la République de Weimar, proclamée en 1919, à l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933. La mémoire collective allemande est depuis 1945 d'abord marquée par le Troisième Reich et les crimes du nazisme qui ont achevé de faire passer la Première Guerre mondiale à l'arrière-plan. Hier après-midi, les cérémonies à Compiègne n'ont pas été retransmises à la télévision allemande.
Pascal Thibault pour RFI. Le président français Emmanuel Macron et le président américain Donald Trump ont parlé de la nécessité pour l'Europe de supporter davantage le fardeau du budget de la défense. Cela après un tweet de Donald Trump décrivant l'appel de Emmanuel Macron à une armée européenne, comme je cite, très insultant. Le président français a parlé de la nécessité pour l'Europe de se défendre, sans compter uniquement sur les États-Unis. Écoutons les deux présidents.
It's unfair to have the European security today being assured just by the United States, and we need a much better burden sharing.
I appreciate what you're saying about burden sharing. You know what my attitude's been, and we want a strong Europe. It's very important to us to have a strong Europe.
Et puis le président américain a annulé sa visite au cimetière américain à Paris en raison de la météo. Reportage Franck Alexandre pour RFI.
Pour le corps des Marines américains, Boisbello est la mère de toutes les batailles. Fin mai 1918, à l'ouest, la situation est catastrophique. Les Allemands lancent une offensive majeure sur le chemin des Dames. Les lignes françaises sont enfoncées sur une profondeur de 50 km dans la région de Reims. C'est alors qu'entre en scène le corps expéditionnaire américain. La deuxième division, forte de 26 000 hommes, relève trois régiments français décimés. Les Américains vont stopper l'avance allemande. Dans la nuit du 5 juin, les Marines contre-attaquent et prennent pied dans un massif forestier, Boisbello. Au bout de deux jours, ils réduisent les points de résistance, font 500 prisonniers. Enfin, après trois semaines d'un combat féroce au corps à corps, le bois est entièrement conquis, mais au prix de très lourdes pertes. Une victoire d'une grande importance psychologique, puisque l'ardeur des Marines a fortement impressionné les soldats allemands. La bataille du Boisbello a même marqué l'histoire américaine. Elle est aujourd'hui considérée comme le premier engagement majeur et l'événement fondateur de la réputation du corps des Marines.
En France, plusieurs milliers de personnes ont défilé hier à Marseille en hommage aux victimes de l'effondrement en début de semaine de deux immeubles. Mais lors de cette marche hier, un balcon s'est effondré sur le cortège, faisant trois blessés. Reportage Stéphane Burgat pour RFI.
Ils étaient sortis sur le balcon au premier étage pour voir passer la marche blanche silencieuse. L'enfant et sa grand-mère s'en sortent avec des blessures légères, de même qu'une passante. Scène choquante pour les témoins comme Marie-Laure.
C'est le bruit que j'ai entendu qui m'a fait me retourner. J'ai entendu un immense bruit, quelqu'un qui hurlait. Je me retourne, je vois une dame dans les décombres qui venait de tomber de son balcon. Ça est allé très très vite.
Une coïncidence bouleversante pour tous dans le cortège, témoigne le député La République En Marche, Saïd Amada.
J'ai mal au cœur, parce qu'évidemment c'est le symptôme par l'absurde quelque part de la situation que connaît la ville. Mais ça note juste le niveau de délabrement de certains immeubles dans cette ville. Est-ce qu'on doit ne plus longer les murs de peur de prendre un parpaing? Est-ce que les Marseillais aujourd'hui sont protégés? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise pas?
Il y a un accident qui a électrisé surtout les manifestants à l'approche de la mairie.
C'est honteux. La France d'en bas, on s'en fout, monsieur. Godin préfère faire des hôtels luxueux, monsieur, à Marseille. Mais on se préoccupe pas des gens.
Des manifestants qui sont allés demander la démission de Jean-Claude Godin et prévoient déjà un autre rassemblement mercredi soir au départ de la rue d'Aubagne. Stéphane Burgat, Marseille, RFI.
En Australie à nouveau, les chefs du gouvernement fédéral et de l'opposition fédérale ont condamné l'attaque au couteau de Bourke Street à Melbourne vendredi, une attaque revendiquée par le groupe Daesh. On écoute le Premier ministre Scott Morrison.
I've got to address the real issue here. I've got to call it out. Radical, violent, extremist Islam that opposes our very way of life.
Le Premier ministre Scott Morrison. On écoute maintenant le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten.
Ever since 2014, there have been the security threat in Australia has been upgraded. I've worked with Prime Ministers Abbott and Turnbull and now Morrison, and we've all shared the same desire to do everything we can to oppose the violent Islamic extremist message, which has become prevalent in a very small part of a radicalized minority.
Bill Shorten, le chef de l'opposition fédérale. Les travaillistes prévoient d'organiser un plébiscite national qui coûterait 160 millions de dollars sur la question de savoir si l'Australie deviendrait une république. Les travaillistes comptent présenter ce plébiscite au cours de son premier mandat. Le chef de l'opposition, Bill Shorten, aurait approuvé le plan de financement pour ce scrutin et non pas un vote par correspondance. Le mois dernier, une enquête indépendante menée auprès de 1000 Australiens et commandée par le mouvement de la République australienne a révélé que 52,4% des gens sondés souhaitaient une république. Michael Daley a été élu chef du Parti travailliste de Nouvelle-Galles du Sud. Il mènera le parti à l'élection de mars de 2019 après la démission de Luke Foley. Le député de Maroubra a recueilli 33 voix sur 45 lors d'une réunion du caucus.
I'm very ambitious for our state. It's the best state in Australia. And the best years of New South Wales lie ahead. But only if we invest in our people, if we invest in our schools, and if we invest in our hospitals.
Michael Daley, le nouveau chef du Parti travailliste en Nouvelle-Galles du Sud. L'armée américaine met en garde des milliers de personnes dans une caravane de migrants voyageant à travers le Mexique de ne pas demander l'asile aux États-Unis. La déclaration intervient alors que des milliers de soldats se rassemblent près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique en prévision de l'arrivée de cette caravane. Le responsable de la patrouille américaine, Rodney Scott, a déclaré qu'une force militaire importante était en place.
And we don't discriminate. Anybody that jumps the border fence that crosses between the ports of entry will be arrested and they will be prosecuted to the full extent of the law. That includes this group.
Et le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient envoyer jusqu'à 15 000 soldats à la frontière, soit plus qu'en Afghanistan. Au moins 9 personnes sont mortes après des incendies de forêt dans plusieurs régions de la Californie aux États-Unis. Ce serait l'incendie le plus destructeur de l'État depuis au moins un siècle. Un jour seulement après le début de l'incendie, près de la ville de Paradise, eh bien, l'incendie a détruit plus de 6000 maisons. Le directeur des services d'urgence, Mark Ghilarducci, a déclaré que l'ampleur de la destruction était incroyable et déchirante.
It's important to note that weather-wise, we are literally in a statewide red flag weather warning. Fire weather conditions are extreme, and we are seeing it from literally border to border, which is making our job obviously much harder.
L'Union européenne soutient la Belgique face aux menaces commerciales de la Colombie. Bogota avait décidé depuis le 1er novembre d'imposer des droits anti-dumping contre les frites congelées en provenance de la Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas. Précision de Quentin Dickinson pour RFI.
Après l'Afrique du Sud et le Brésil, voilà donc la Colombie qui annonce à son tour l'imposition de surtaxes prohibitives à l'importation de stocks de frites congelées en provenance surtout de la Belgique, mais aussi des Pays-Bas et d'Allemagne, les trois pays européens principaux transformateurs industriels de pommes de terre. Le marché colombien en lui-même n'est pas particulièrement développé, mais c'est la tendance qui préoccupe les agriculteurs et les intermédiaires de la filière, déjà éprouvés cette année par une récolte limitée et de piètre qualité due à la sécheresse de l'été dernier. Les Colombiens cherchent, semble-t-il, à protéger leurs agriculteurs et à favoriser l'éclosion d'une production agro-industrielle nationale. Saisie par les autorités belges, qui avaient en vain tenté de raisonner Bogota, la Commission européenne vole au secours de la frite congelée et devrait incessamment introduire une plainte pour mesures anticoncurrentielles indues devant l'Organisation mondiale du commerce. Le litige pourrait certes prêter à sourire, mais dans les faits, on est bien loin de la sympathique baraque à frites belge ou nordiste. Le secteur européen de la pomme de terre traite environ 60 millions de tonnes de tubercules par an et assure l'emploi, directement ou indirectement, de plusieurs centaines de milliers de personnes dans l'Union européenne.
Quentin Dickinson pour RFI. Un mot de sport avec le rugby, les test matchs d'automne. La Nouvelle-Zélande a battu l'Angleterre 16-15. Et puis le Pays de Galles s'est imposé contre l'Australie 9-6. Et l'Afrique du Sud s'est imposée contre la France 29-26. Et on reviendra sur ce match tout à l'heure dans le magazine des sports. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 24 degrés. Adélaïde 31, Melbourne 23, Hobart 19, Canberra 27, Sydney 25, Brisbane 27, Cairns 30, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 31 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, les commémorations marquant la fin de la Première Guerre mondiale ce dimanche. Les enquêtes se poursuivent sur l'attaque au couteau à Bourke Street à Melbourne, une attaque revendiquée par le groupe djihadiste Daesh. Michael Daly est le nouveau chef des travaillistes en Nouvelle-Galles du Sud. Fin du journal et merci de rester avec nous pour la suite de l'émission.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Êtes-vous inscrit au concours national des langues SBS 2018? Le concours est ouvert à toute personne apprenant une nouvelle langue jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, visitez sbs.com.au/nlc18.